suis heureuse de vous souhaiter la bienvenue à la fête de lutte ouvrière. Et avant de prendre l'apéritif tous ensemble, je voudrais vous dire quelques mots sur la situation politique et sociale. Hier, après bien d'autres institutions comme la Banque de France, l'INSEE a annoncé une révision à la baisse de ses prévisions économiques. La croissance sera nulle pour la fin de l'année, tandis que l'ensemble de la zone euro est en récession. Et l'année 2013 s'annonce encore pire, avec les conséquences de l'austérité que veut imposer le gouvernement. La situation n'est bien sûr pas encore comparable, pour l'instant, avec celle de la Grèce, où la production a reculé de 10%. Et nous ne sommes pas encore dans la situation consécutive à la crise de 1929, où la baisse de production avait atteint les 50%. Non, nous n'avons encore rien vu. Mais on y va. Et il n'y a que les partisans du système capitaliste pour dire, comme cet acteur qui tombait du 15e étage dans un film, qui affirme un brin désabusé, jusque-là, tout va bien. Le chômage va donc continuer d'augmenter et l'INSEE ajoute que le pouvoir d'achat va continuer de baisser. Début septembre, l'INSEE, toujours, annonçait que l'an prochain, la barre des 10 millions de pauvres, c'est-à-dire les personnes survivant avec moins de 964 euros par mois, allait être franchie. Depuis le début de la crise, tous les ans, 400 000 personnes de plus basculent dans la pauvreté. Les classes populaires payent le prix fort de la crise. Mais en quoi, nous, les travailleurs, sommes responsables de cette crise? Pour quelles raisons devrait-on payer pour une crise provoquée par les folies spéculatives des banques et des grandes entreprises qui ont transformé la planète en un gigantesque casino? Cette semaine, on a vu le trust ArcelorMittal, le numéro 1 mondial de l'acier, annoncer la fermeture des derniers hauts fourneaux de Lorraine. Mittal prend prétexte de la crise pour les fermer, en expliquant que le marché de l'acier est en baisse. En Europe, du fait de la crise, la vente d'acier effectivement a diminué. Mais elle n'a pas diminué dans le monde, bien au contraire. On n'a jamais autant vendu d'acier sur la planète. Et ArcelorMittal, groupe mondial, vend partout dans le monde. Alors qu'il ne nous raconte pas d'histoire, ce qu'il ne vend plus en Europe, il le vend ailleurs. D'ailleurs, le groupe n'est absolument pas en difficulté, contrairement à ce qu'il nous annonce. L'an dernier, il a fait 1,7 milliard de profits et sur les 5 dernières années, il a fait 19 milliards de bénéfices. C'est dire qu'il y aurait de quoi puiser sur les bénéfices pour maintenir les emplois. Et quand bien même l'entreprise ArcelorMittal aurait des difficultés financières, la fortune de son principal actionnaire, la CMI Mittal, qui est tout de même, soit dit en passant, la 6e fortune du monde, devrait être utilisée pour maintenir ce qui est vital pour les travailleurs, leur emploi et leur salaire. Mais ce que veut ArcelorMittal, c'est comme tous les autres groupes capitalistes, produire autant avec moins d'usines et moins de travailleurs. Moins d'ouvriers, moins d'employés, moins de techniciens, moins d'ingénieurs, c'est autant de bénéfices supplémentaires pour les actionnaires. Et tant pis si toute la société en crève avec l'explosion du chômage. Oui, ces gens-là sont irresponsables. Alors il est vrai qu'il est vital de mettre un terme à la dictature qu'ils exercent sur la société. Il est vital de les empêcher de nuire, si nous ne voulons pas que toute la société bascule dans une crise encore plus dramatique que celle de 1929. Oui, la situation est grave. Il ne se passe pas une semaine qu'on nous annonce des suppressions massives d'emplois. Avant ArcelorMittal, c'était Doux, PSA, Carrefour, Sanofi, des grands groupes qui arrosent leurs actionnaires à coups de milliards. Et plus près de nous, sur le bassin de Besançon, il y a OG Découpage, Stanley Mavo, les papeteries de Novillard, la mission locale, elle-même qui est touchée, l'AFPA et bien d'autres qui voient leurs effectifs diminuer ou qui sont menacés de fermeture. En juillet dernier, PSA a annoncé un plan de 8000 suppressions d'emplois ainsi que la fermeture de l'usine d'Aulnay-sous-Bois en région parisienne. PSA se plaint d'être en difficulté et de ne plus vendre de voitures. En fait, c'est très relatif. PSA a connu son record mondial de vente de voitures en 2010 avec 3,6 millions de véhicules à l'échelle mondiale. En 2011, il lui a manqué 45 000 véhicules pour atteindre son record de 2010, tout ça à cause du tsunami au Japon qui a perturbé l'approvisionnement de nombreuses usines. Et cette année, au premier semestre, Peugeot annonce une baisse des ventes de 240 000 véhicules, ce qui correspond exactement à ce qu'il vendait à l'Iran, pays où les pouvoirs publics, les nôtres, lui interdisent désormais de vendre des voitures. Alors si les pouvoirs publics peuvent interdire à PSA de vendre des voitures, ils peuvent aussi lui interdire de supprimer des milliers d'emplois dans la situation dramatique du chômage que nous connaissons. Si PSA veut fermer une de ses 5 usines de montage qu'il possède en France, c'est pour tuer à la tâche les travailleurs qui restent dans les autres usines du groupe, à Mulhouse, à Sochaux ou à Poissy. Il voudrait que les usines tournent non pas à 100%, mais à 130% de leur capacité, pendant que des milliers de travailleurs se retrouvent au chômage. Voilà, pour eux, la seule raison de ces licenciements annoncés. Et puis le groupe PSA, ce n'est pas seulement la branche automobile, c'est aussi GEFCO, le transporteur, que PSA est en train de vendre pour près d'un milliard au chemin de fer russe. C'est encore la banque PSA Finance, celle qui fait les crédits auto et qui a fait un demi-milliard de bénéfices au premier semestre. C'est aussi Faurecia, dont les bénéfices explosent. Et puis la famille Peugeot n'a pas que des actions dans le groupe PSA. Suivant à la lettre le proverbe « on ne met pas tous les œufs dans le même panier », elle a des intérêts dans bien des sociétés. Elle a des actions dans le réseau d'autoroutes Sanef, dans le groupe privé de maisons de retraite Orpea, qui vient d'annoncer une hausse de ses bénéfices de 25%. Ils sont aussi actionnaires d'un géant du transport en Asie, de Zodiac, de Seb ou d'Honnête. Alors même si PSA a réussi à mettre les comptes de sa seule branche automobile dans le groupe pour justifier les 8000 suppressions d'emplois, l'ensemble du groupe, et surtout ses principaux actionnaires, la famille Peugeot, ne sont eux pas du tout dans le rouge. Ils sont d'ailleurs plutôt de la couleur or, comme ces lingots que Robert Peugeot planquait dans un coffre de sa salle de bain, jusqu'à ce qu'un voleur audacieux les a fait disparaître. Les Peugeot roulent sur l'or, comme tous les gros actionnaires des grandes entreprises et des banques qui traversent la crise en la faisant payer aux classes populaires. Alors, il faut inverser la vapeur et transformer les richesses produites par le travail en salaire et en emploi, au lieu qu'elles soient stérilisées en fortune accumulée par une minorité de capitalistes. Oui, malgré la crise, les profits sont là et bien là. Les 465 plus grosses entreprises européennes devraient afficher cette année au total 586 milliards de bénéfices. Certes, c'est un peu moins qu'en 2007 où elles avaient gagné, je dirais seulement, 630 milliards d'euros. Ces profits considérables pourraient permettre de donner un salaire, cotisations comprises, aux 24 millions de chômeurs recensés à travers l'Europe. L'argent existe pour payer des salaires, en partageant le travail entre tous avec maintien des payes. Il faut aller le chercher là où il est. Mais il n'est pas normal, il n'est pas juste qu'une fraction des travailleurs se désespère au chômage, tandis qu'une autre partie se tue à la tâche, alors que les grandes firmes capitalistes sont assises sur des montagnes de bénéfices. Et face à cette situation, inutile, vous en êtes tous aperçus, de compter sur le gouvernement Hollande. 4 mois après son élection, il est bien difficile de voir les différences entre la politique menée par Hollande et celle que menait Sarkozy, y compris sur le terrain de l'immigration, où Valls essaie de se mettre au niveau de Guéant. Bien sûr, le style est différent, moins Rolex, moins Fouquet que l'équipe précédente, mais c'est la même politique qui est menée. En juillet, on a entendu le gouvernement faire de fortes déclarations contre le plan de PSA qu'il jugeait inacceptable, pour finalement, en septembre, aider la famille Peugeot à faire accepter ce plan et dénoncer les syndicats qui ne sont pas, selon Montebourg, responsables. Mais c'est la famille Peugeot et le gouvernement qui sont irresponsables de laisser fermer des usines et mettre des travailleurs au chômage. Parce que l'on n'est pas dépourvu de moyens contre le patronat. Il dispose de tous les pouvoirs. L'Élysée, le gouvernement, l'Assemblée nationale et même le Sénat sont à gauche. Mais ils ne veulent rien faire qui contredise un tant soit peu les intérêts des groupes capitalistes. Les travailleurs doivent avoir la claire conscience que le gouvernement n'est pas un allié des classes populaires, mais le serviteur dévoué des intérêts des grands groupes capitalistes. On vient de le voir d'ailleurs à la vitesse avec laquelle il a reculé face aux protestations du patronat à propos de la hausse de la taxation des plus-values sur les cessions d'entreprises. Mercredi, le MEDEF affirmait que la taxation sur ces plus-values pourrait passer de 34,5 à 62,2%. Et tout ce que ce pays compte défenseur de patrons se mettait à hurler à la mort. Laurence Parisot osant même parler de, je la cite, de racisme anti-entreprise. Bien sûr, le gouvernement s'est aussitôt excusé et Moscovici, le ministre d'économie, a poussé l'aplatissement jusqu'à déclarer mercredi à l'Assemblée nationale, et là je le cite aussi, « Vous ne nous prendrez pas en défaut en matière d'esprit d'entreprise ». Et jeudi, il annonçait, au lieu de la hausse prévue, une exonération totale de la taxe si la plus-value réalisée sur la cession d'entreprise était réinvestie. Cette semaine, on a vu également le gouvernement aller au-devant des désirs patronaux en annonçant qu'il allait baisser les cotisations sociales versées par les employeurs de 40 milliards. Autrement dit, c'est une baisse de 40 milliards dont il fait cadeau au patronat, 40 milliards qui seront payés par tous les contribuables. La servilité de ce gouvernement qui se prétend de gauche face aux patrons, grands et petits, est écœurante. Alors oui, il faudra que nous, les travailleurs, nous ne comptions que sur nous-mêmes, sur les luttes collectives, amples, massives, conscientes, débordantes, qui se renouent avec les meilleures traditions du mouvement ouvrier, celles qui se sont exprimées en juin 36 et en mai 68. Mais si les luttes sont indispensables pour changer le rapport de force, elles ne suffisent pas. La Grèce a connu pas moins de 14 grèves générales et cela n'a pas empêché le peuple grec de basculer dans le chômage et la misère. Il faut aussi que ces luttes aient des perspectives, des objectifs qui permettent d'inverser le rapport de force entre le monde du travail et la classe capitaliste. Pour porter ces objectifs, il faut que renaisse un parti ouvrier révolutionnaire comme l'était le Parti communiste à son origine et avant lui, il y a bien longtemps, le Parti socialiste. Ces partis ont renoncé à changer l'ordre social. Ils ont renoncé aux idéaux qui les ont fondés. Depuis un siècle, le Parti socialiste est passé complètement du côté de l'ordre capitaliste. Quant au Parti communiste, il s'est mis à la remorque de Jean-Luc Mélenchon. Ce vieux politicard socialiste a une ambition avouée, si ce n'est celle de remplacer Hollande à l'Élysée, au moins celle de remplacer Ayrault à Matignon. Le jour, bien sûr, où le gouvernement actuel se sera trop déconsidéré. Il est d'ailleurs bien significatif que Mélenchon et le PC, et accessoirement la gauche de la gauche, aient organisé comme première manifestation depuis le départ de Sarkozy une mobilisation non pas contre l'austérité ni contre le chômage, mais pour exiger du gouvernement un référendum pour ou contre le traité européen qui est en cours d'examen au Parlement. Cet objectif est ridicule. Car admettons qu'ils aboutissent à obtenir ce référendum, et admettons que le non l'emporte, qu'est-ce que cela changerait? Rien, comme en 2005, où le non l'avait emporté, mais où le traité a été appliqué quand même. Ce traité européen est bien sûr un plaidoyer contre l'austérité. Pour l'austérité, pardon. Le fait qu'Hollande le reprenne à son compte, après l'avoir dénoncé quand Sarkozy en faisait la promotion, ne juge que de la volonté politique de Hollande de servir les intérêts de la bourgeoisie, qui n'a pas attendu le traité pour licencier, ni les gouvernements pour appliquer des mesures d'austérité. La mobilisation contre le traité européen est de la part de ses initiateurs une diversion, doublée d'une escroquerie politique, même si nombreux sont les participants qui ont eu le sentiment de manifester contre les mesures d'austérité qui s'appliquent dans toute l'Europe. C'est une diversion, car les problèmes des travailleurs ne résident pas dans un chiffon de papier que les États s'empresseront de ne pas respecter si la bourgeoisie en a besoin. C'est aussi une escroquerie politique, car c'est désigné comme nos ennemis principaux, Merkel et l'Union européenne, tout comme le font d'ailleurs Le Pen ou Dupont-Aignan. C'est une manière de dédouaner le gouvernement, et surtout le patronat, en faisant porter la responsabilité de la situation à l'extérieur de nos frontières. Alors oui, il faut que les travailleurs se mobilisent pour sauver leur peau, c'est-à-dire leur emploi et leur salaire, et ne s'embarquent pas dans des mobilisations qui ne peuvent déboucher, au mieux, que sur des impasses. Du point de vue syndical, la CGT a mis la journée du 9 octobre sous le signe de la défense de l'emploi industriel, ce qui n'est nullement un objectif pour l'élu des travailleurs. De la droite à la gauche, tout le monde dit vouloir défendre l'industrie, mais la meilleure façon de la défendre serait encore d'arrêter de raser des usines pour le seul profit de quelques gros actionnaires. Et c'est pourquoi, en tête de nos revendications, il faut mettre l'interdiction des licenciements. Face à l'hémorragie d'emplois, il faut poser un garrot pour arrêter les fermetures d'usines et les plans licenciements, c'est la première urgence. Ensuite, répartir le travail entre tous, sans baisser le salaire de personne, en transfusant l'argent des grands groupes industriels et financiers vers le paiement des salaires des travailleurs. Mais ces journées du 9 octobre, nous aussi, l'ouvrière, nous appelons à y participer pour défendre justement ces revendications, pour les mettre en avant. Il faut participer aux rassemblements qui ont lieu dans tout le pays. Et si à Besançon, je le dis et je l'annonce pour ceux qui sont dans le coin, le rendez-vous est à 10h devant la Chambre de commerce et d'industrie. Mais il faut aussi arrêter la dégradation continue du pouvoir d'achat des classes populaires de manière à ce que les fins de mois ne commencent pas avant que le mois n'ait lui-même commencé. Les chiffres valent ce qu'ils valent, mais toutes les prévisions annoncent qu'après une baisse sensible du pouvoir d'achat des ménages en 2010 et 2011, cette baisse devrait s'amplifier pour atteindre 1,2% en 2012 et autant en 2013 à cause de la hausse des prix, des hausses d'impôts et du blocage des prestations sociales. Et encore, ce sont les chiffres officiels bien en dessous de la réalité vécue par les classes populaires. C'est pourquoi il faut imposer de protéger les revenus des travailleurs, des retraités, des chômeurs et de tous ceux qui vivent d'une allocation par l'indexation des revenus des classes populaires sur la hausse des prix, c'est-à-dire par l'échelle mobile des salaires. La crise ne nous laissera pas d'autre choix que de nous battre contre le patronat qui a le gouvernement, même s'il se proclame de gauche, avec lui. C'est eux ou nous. Alors autant nous y préparer avec des objectifs qui en valent la peine et y préparer les autres autour de nous plutôt que de nous retrouver contraints à nous battre dos au mur, un couteau sous la gorge. Oui, les travailleurs ont la force et la possibilité d'inverser le cours des choses car c'est nous qui faisons tout fonctionner dans cette société. Mais pour cela, il est nécessaire de construire un parti ouvrier révolutionnaire qui est indispensable pour donner des perspectives qui aillent dans le sens des intérêts de toute la classe ouvrière. Voilà, camarades et amis, ce que je voulais vous dire avant de commencer le repas. Et je vous propose de reprendre le chant de lutte des travailleurs du monde entier. Je vous propose de chanter l'International. Bravo.
Sure.